Vous êtes sur RTL.
Et un nouveau journal dans cette édition spéciale avec vous. Bonjour Jérôme Florin.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Si vous nous rejoignez maintenant à l'instant, c'est évidemment l'information de cette matinale. Valéry Giscard d'Estaing est mort hier soir à l'âge de 94 ans.
39 ans après son départ de l'Élysée, un départ qu'il n'avait jamais complètement digéré. D'ailleurs, on va le voir dans un instant. L'ancien président de la République s'est éteint chez lui à Autun, dans le Loir-et-Cher, où vous trouvez Christian Panvert. VGE est mort du coronavirus. Parmi les siens, fait savoir sa famille qui a rendu l'information publique peu après 23 heures.
Oui, l'ancien président est mort chez lui, entouré des siens, de ses enfants, de sa femme, anémone. Il avait été hospitalisé dimanche 15 novembre au CHU de Tours, où il était resté une semaine avant de rentrer à son domicile. On le disait déjà très affaibli. Son entourage s'inquiétait de le voir rester dans sa chambre, lui qui aimait tant se promener dans le parc arboré. L'ex-résident de l'Élysée se partageait entre son domicile parisien et le domaine de l'Étoile, une propriété agricole de 650 hectares. Ici à Autun, on le voyait de temps en temps à la messe dominicale, au bureau de vote. La dernière fois d'ailleurs, je crois que c'était en 2017 pour les élections législatives. Il avait été particulièrement bouleversé par la mort de sa fille Jacinthe en janvier 2018. Son enterrement avait eu lieu dans la plus grande discrétion, dans le berceau familial à Autun. C'est ici que devraient d'ailleurs se dérouler les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing, dans une parcelle privée près du château de l'Étoile.
Merci Christian Panvert. Valéry Giscard d'Estaing, une particularité de son père qui avait racheté ce nom à un amiral de l'ancien régime, pur produit de l'élite française, polytechnicien, énarque. L'ancien ministre des Finances devenu président en 1974 aura pourtant eu à cœur de bousculer tous les codes de la communication politique pour faire moderne, réformateur aussi avec la loi sur l'IVG, la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel. Mais VGE n'était pas obsédé par la postérité, il le confié en juin dernier sur RTL, le micro de Thomas Soto.
Il y a des hommes politiques ou des femmes politiques d'ailleurs qui sont obsédés par la postérité. Ce n'était pas mon cas et ce n'est pas mon cas.
Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous plus tard ?
Bon, j'aimerais qu'on soit bienveillant. C'est tout.
Oui. Et politiquement, comment on devra définir le giscardisme ?
Oh, c'est un système politique démocratique qui repose sur le respect des règles constantes de fonctionnement d'une bonne démocratie. C'est-à-dire le respect des durées, des échéances et des décisions.
Son septennat transforma la France, ses orientations guident encore nos pas, dit de lui Emmanuel Macron, un homme qui a fait honneur à la France, réagit Nicolas Sarkozy.
Un homme qui fut pourtant, on le rappelle, sèchement battu par Mitterrand en 1981.
Et parti sous les sifflets de l'Élysée, il ne s'en remettra vraiment jamais. Et VGE et les Français de la lune de miel au divorce, symbolisé par ce au revoir lugubre face caméra, son biographe, le journaliste Patrice Duhamel.
Comme beaucoup de présidents de la Ve République, il voulait absolument être aimé des Français. Il y avait, d'une certaine manière, par son physique, par ses origines un peu aristocratiques, il y avait une certaine distance entre les Français et lui. Il voulait se faire aimer, et parfois, de temps en temps, il en a fait beaucoup pour se faire aimer. Mais il faut se souvenir que, dans les premières années de son septennat, il bénéficiait d'une popularité absolument exceptionnelle, et que cette popularité débordait largement son électorat du centre et de la droite. Il est clair qu'une partie de la gauche lui était très favorable et qu'il bénéficiait dans l'opinion d'un état de grâce tout à fait exceptionnel. Et la vraie rupture, la vraie fracture du septennat, c'est août 1976, c'est-à-dire un peu plus de 2 ans après son élection, à partir du moment où il y a cette rupture avec Jacques Chirac et le RPR.
Patrice Duhamel avec Céline Landreau. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour.
Le chef du service politique de RTL. Lorsqu'il est battu en 81, Valéry Giscard d'Estaing a 55 ans et il va tenter de revenir au pouvoir en repartant, et seul lui l'a fait, du bas de l'échelle.
Oui, une vraie prouesse doublée pour le coup d'une certaine humilité. En 1983, il parcourt la campagne au volant de sa Peugeot verte et redevient simple conseiller général du Puy-de-Dôme. Tout juste un an plus tard, 1984, le voilà de retour à l'Assemblée comme député du Puy-de-Dôme. Il y restera jusqu'en 1997. Giscard rime aussi avec Cumulard, député et en même temps président du Conseil régional d'Auvergne. Il y est élu en 1986 pendant près de 20 ans. Il n'en reste pas là. 1989, les jeunes de l'UDF sont partis, veulent sa peau, mais il ne s'en laisse pas compter. Et aux élections européennes, il conduit une liste nationale qui arrive en tête un vrai tour de force. Et ce n'est pas terminé, puisqu'en 1995, il se représente à la mairie de Clermont-Ferrand, cette fois sans succès. Mais attention, pas de quoi le décourager. Il songe à prendre sa revanche en se présentant à l'élection présidentielle la même année. Il finit par y renoncer, même si des années plus tard, il jurait encore qu'il aurait eu de sérieuses chances de l'emporter. Une présidence chasse l'autre, un espoir aussi. VGE se rêve carrément en président de l'Europe, mais son projet de constitution européenne est rejeté par les Français en 2005. Sonne alors la fin de cette nouvelle épopée giscardienne.
Merci beaucoup Benjamin Sportouche. Valéry Giscard d'Estaing réussira malgré tout à accrocher une autre corde à son arc, hein, celle de membre de l'Académie française en 2004, malgré d'ailleurs des talents d'écrivain parfois contestés, avec notamment ce roman La princesse et le président, où il fantasmait une relation torride avec la princesse Diana.
Un sacré roman sentimental. Cette matinale spéciale, elle continue bien entendu sur RTL. Tiens, dans quelques minutes, on s'interrogera sur l'héritage politique de Valéry Giscard d'Estaing avec l'un de ceux qui s'en réclament, le président de l'UDI, centriste Jean-Christophe Lagarde. Et puis notez aussi, bien entendu, parmi les invités d'Yves Calvi, là, dans un peu plus d'une demi-heure sur RTL, l'ancien président François Hollande. Ce sera donc à 7h15. À suivre dans un instant dans ce journal le reste de l'actualité. Les vaccins arrivent au Royaume-Uni et en Russie. Et chez nous alors, on en parle juste après ça.
RTL Matin, Julien Cellier.
Et la suite de votre journal, donc le reste de l'actualité dans cette édition spéciale à 6h39 sur RTL. Les Britanniques pourront se faire vacciner contre le virus dès la semaine prochaine.
Et chez nous, il faudra encore attendre un peu. Trois essais de vaccins doivent démarrer dans quelques jours, Odile Pouget.
Premier vaccin, celui du laboratoire américain Janssen, déjà testé sur des dizaines de milliers de volontaires dans d'autres pays. Odile Lenay, infectiologue qui pilote cette plateforme.
C'est une phase 3. Les participants vont recevoir deux doses de vaccin à deux mois d'intervalle.
Le deuxième essai concerne le vaccin britannique d'AstraZeneca, avec là aussi 1000 volontaires. Objectif, approfondir les connaissances sur la durée de la protection, la qualité de la réponse immunitaire. Enfin, le troisième essai, celui du vaccin de l'américain Moderna, se fera lui à petite échelle, 180 volontaires dont 120 âgés de plus de 70 ans. L'âge, un critère très important pour l'infectiologue Jean-Daniel Lelièvre.
L'âge est le facteur de risque majeur de forme sévère des Covid-19 et deuxièmement parce que l'on sait avec l'âge la réponse immunitaire est en général moins bonne. C'est très bien connu avec un certain nombre de vaccins, notamment le vaccin contre la grippe. Et donc l'étude chez ces populations particulières est plus que pertinente.
Étude clinique qui pour ce vaccin ne devrait pas commencer avant début janvier.
Odile Pouget, en football, dernier mot, le PSG sauve sa peau et fait un grand pas en direction des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont battu Manchester United 3-1.